Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Dimanche se déroule la journée mondiale pour la prévention du suicide. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de 800 000 personnes se suicident chaque année. Les trois quarts de ces suicides surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et d'ailleurs, les taux de suicide varient d'un pays à l'autre. En France, il reste un des plus élevés d'Europe, deux fois plus par exemple qu'en Italie ou en Espagne. Et le suicide, on le sait, concerne tous les âges et représente la seconde cause de mortalité chez les 15-29 ans dans le monde. Alors comment prévenir le suicide ? Quel suivi après une tentative ? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Franck Bellivier, qui est responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologique de l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal à Paris. Il dirige également une équipe de recherche en neuropsychopharmacologie des troubles bipolaires et des addictions au centre expert bipolaire de la Fondation Fondamentale à Paris. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Prosper Gandao, qui est chef du service de psychiatrie du CHU de Borgo à Parakou au Bénin. Et on terminera en parlant des troisièmes assises de la Fédération européenne des associations luttant contre l'isolement et pour la prévention du suicide qui ont eu lieu hier au Parlement européen de Bruxelles en Belgique.
RFI.
Professeur Franck Bellivier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet douloureux, mais c'est indispensable d'en parler, de ne pas en faire un sujet tabou. D'abord, est-ce qu'on sait un peu quels sont les pays les plus touchés ?
Alors, on a des données épidémiologiques assez précises en Europe, et dans le monde, c'est un peu... Pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Le recueil, d'ailleurs, des statistiques de suicide subit...
C'est pas si facile que ça. Oui, quand est-ce que c'est réellement un suicide ?
Très difficile, c'est tabou. On sait que les suicides sont sous-déclarés. Donc, en réalité, on dispose pas de statistiques fiables pour l'ensemble des pays.
Et sur l'Europe, alors, où on a un peu plus de chiffres ?
Alors, sur l'Europe, la France n'est... pas très bon élève, au-dessus de la moyenne européenne, et puis les pays les plus concernés, Slovénie, Hongrie, les moins concernés, vous l'avez dit, Italie, Grèce, donc des variations régionales qui sont constatées et pas toujours très bien expliquées.
C'est ça, difficile à comprendre. Quelle est la tranche d'âge la plus touchée ?
Alors, pour les décès par suicide, c'est important de le rappeler, c'est la tranche 25-35 et le suicide est la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge. Après, le décès par suicide touche plus les hommes et plus fréquent dans la maturité, mais en termes de cause de suicide, c'est la première cause entre 25 et 35 ans.
En France, on a longtemps dit que le nombre de suicides restait le même depuis plusieurs années. Qu'on ne progressait pas dans ce domaine, c'est plus tout à fait vrai. Il y a quand même quelques légers progrès ces derniers temps.
Sur les chiffres, c'est encore limité, mais des initiatives importantes ont vu le jour ces dernières années suite à des études de grande ampleur qui ont été conduites dans notre pays et donc des stratégies spécifiques de prévention du suicide qui sont en train de se mettre en place, des équipes de recherche très mobilisées sur ce sujet-là et donc une mobilisation importante des équipes cliniques autour de stratégies visant à prévenir les conduites suicidaires.
On reviendra sur à la fois ces stratégies de prévention et les équipes de recherche et le travail qui est mené dans ce domaine. Quels sont les facteurs de risque ?
Très nombreux, c'est une entité morbide qui est multidéterminée, mais on a une hiérarchie dans ces facteurs de risque qui nous guide pour le repérage des populations à risque. Le premier facteur de risque de décès par suicide, loin devant tous les autres, c'est un antécédent personnel de conduite suicidaire. Donc ça permet déjà d'identifier une population dans laquelle les stratégies de prévention vont devoir être conduites de manière très intense, agressive même, pour limiter le risque de récidive suicidaire.
Qu'est-ce qu'on met sous ce terme de conduite suicidaire ? De prise de risque incontrôlée ?
Non, enfin, on a une définition assez claire, c'est la conduite visant à mettre fin à ses jours, sous-tendue par des idées de mort, des idées suicidaires. Donc, voilà, après, il y a des... effectivement, là, on peut voir dans certaines conduites de prise de risque des équivalents suicidaires. Bon, je dirais c'est un peu à la marge. Mmh. L'idée suicidaire et la conduite visant à mettre fin à ses jours, c'est quelque chose d'assez précis.
Donc la suite de ces facteurs de risque.
Donc l'antécédent personnel de conduite suicidaire qui pèse très très lourd, qui est un facteur qui est de risque qui est loin devant tous les autres.
Donc par exemple avoir fait une tentative de suicide,
exactement.
On a encore plus de chances d'en faire une.
Voilà, c'est 1% de morts dans l'année, 10% dans les 5 à 10 ans. Donc ça pèse très lourd dans la prédiction du décès par suicide. Les autres facteurs de risque de conduite suicidaire, ce sont les troubles mentaux. La pathologie mentale la plus suicidogène, c'est l'anorexie mentale. C'est une maladie rare, donc les troubles de l'humeur, qui eux sont des maladies fréquentes, payent un tribut beaucoup plus important en termes de mort par suicide. Et dans les troubles de l'humeur, il y a des pathologies très suicidogènes comme le trouble bipolaire et comme le trouble unipolaire. Une autre morbidité très fortement associée aux conduites suicidaires et aux décès par suicide, ce sont les addictions. Mais bon, après, les autres troubles mentaux sont également suicidogènes, mais là, je vous ai cité les principales.
Vous avez parlé des tentatives de suicide et donc du fait que le risque d'en refaire une quand on en a déjà fait une est très important. On a souvent entendu dans le langage populaire dire que les tentatives, c'est de pas vraiment vouloir se suicider, c'est juste un appel au secours. C'est pas ça, c'est pas vrai.
Il faut absolument battre cette idée en brèche. La tentative de suicide est un signe d'alarme. La question de savoir s'il y a une manipulation derrière et me paraît assez périphérique. Il faut considérer que la personne qui fait une tentative de suicide est dans une très grande souffrance, qu'elle a fait une expérience parfois qui dure quelques jours, quelques semaines, mais parfois qui est très fugace, une expérience extrêmement angoissante, à savoir qu'elle a été traversée par l'idée de mettre fin à ses jours, ce qui est décrit par les personnes qui connaissent l'idée suicidaire comme quelque chose d'extrêmement angoissant, parfois inopiné, et surtout l'expérience de perdre le contrôle de ces idées suicidaires est quelque chose qui rend les personnes très perplexes. Donc il faut accorder beaucoup d'attention à ces situations que connaissent les personnes qui ont eu des idées suicidaires et en ont perdu le contrôle et ont fait un geste suicidaire.
On a Salifou qui nous appelle de Niamey au Niger. Salifou, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute, Salifou.
Bon, la première fois, quand j'avais 9 ans, j'étais envoyé chez mon beau-frère avec ma sœur à cause du mauvais traitement de mon père. Et du coup, là-bas, ça a été l'enfer pour moi. Il m'a puni tout le temps. Et un jour, ma sœur m'a dit de retourner à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, mon père m'a chassé. Il m'avait dit qu'il préfère me voir mort et de voir ce que je suis devenu. Et la deuxième fois, j'avais 24 ans, je me suis senti abandonné et délaissé. Et personne ne m'écoute dans la famille. Et souvent, j'entends des voix qui me critiquent. Et heureusement, un ami m'a écouté et m'a empêché de me suicider. Il m'a proposé de venir habiter chez lui et assumer et remonter le moral.
Il y a vraiment, dans ce que vous dites, Salifou, quelqu'un qui, à un moment, vous a aidé, vous a entendu. Je voudrais que vous réagissiez, professeur Franck Bellivier, à ce témoignage de Salifou. D'abord, peut-être sur la conséquence des maltraitances enfants.
Exactement. Ce témoignage est très emblématique d'un facteur de risque très important d'idées suicidaires et de conduites suicidaires. Que sont les maltraitances au cours du développement, en tout cas les stress au cours du développement. Ce témoignage est tout à fait important de ce point de vue-là. Je voudrais dire également que ce qui est important dans le témoignage de Salifou, c'est aussi qu'il prenne la parole. pour dire ce qui a été son parcours avec ses facteurs de stress au cours de son développement et son témoignage de des moments où il a été traversé par des idées suicidaires et des conduites suicidaires. Et ce qui est important dans il y a deux autres aspects très importants dans son témoignage. Le premier, c'est que son histoire illustre très parfaitement que les idées suicidaires peuvent être temporaires. Et ça, c'est un message très important à délivrer aux personnes qui connaissent des moments de détresse avec des idées suicidaires. Ça n'est pas permanent. Ça va passer. Et le deuxième...
D'où, je vous interromps là-dessus, excusez-moi. D'où l'intérêt d'ailleurs d'agir à ce moment-là. Parce
exactement.
Que si on aide la personne à ce moment-là, on évite le suicide.
Et c'est un des messages que l'on peut délivrer aux personnes qui sont dans le désarroi de cette expérience d'idées suicidaires. Et le deuxième message, c'est que l'écoute et l'aide bienveillante qui lui a été apportée, qui n'a rien de très spécifique, cette personne a été là pour lui, l'a écouté, l'a accompagné le temps nécessaire et ça a contribué à la résolution de cette crise suicidaire ou de ces crises suicidaires que Salifou a connues. Donc je trouve que c'est un témoignage important à plusieurs titres.
Salifou, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ou de poser une question à notre invité?
Ah non, c'est tout.
Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Et vous allez bien aujourd'hui, Salifou?
Ah, j'y vais bien.
Vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Je pense que votre témoignage est aussi utile pour d'autres.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du suicide à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide qui se déroule dimanche. Et on en parle avec le professeur Franck Bellivier, qui est responsable du service de psychiatrie à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal à Paris. Professeur Franck Bellivier, suite au témoignage de Salifou, je voudrais aussi vous lire le témoignage de Damien, qui est à Kinshasa en RDC, qui nous a laissé un message sur Facebook. Il dit « J'ai été une fois tenté par le suicide alors que ça faisait 5 ans que je n'avais pas de travail. Je m'en suis sorti, mais aujourd'hui j'ai un ami qui menace de se suicider. Il n'a pas de logement. Il ne croit plus en lui-même. Il vient souvent chez moi pour en parler, que puis-je lui dire pour l'en dissuader ? C'est-à-dire vraiment toute la question de que peuvent faire les proches, on l'a entendu pour Salifou, c'est vraiment un ami qui l'a aidé.
Ben, j'ai envie de lui répondre que les ingrédients que nous venons de citer qui ont aidé Salifou vont possiblement contribuer à aider son ami. Donc lui rappeler que les idées suicidaires sont temporaires et donc garder l'espoir de voir cette période de crise passer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Garder le contact avec lui, ça c'est très important, on l'a vu dans l'histoire de Salifou. Être là pour lui, l'accompagner. Il n'y a rien de très spécifique à faire, mais garder le contact, c'est vraiment un ingrédient très important. Et écouter, c'est vraiment un ingrédient très important. Si on pense que son ami a besoin de soins, il faut aussi lui offrir la possibilité d'entrer en contact avec des professionnels. Il y a des mesures qui peuvent être prises et qui peuvent contribuer à diminuer ses idées suicidaires. Si par exemple il est aux prises avec une décompensation dépressive, il y a des traitements efficaces. Avec des crises d'angoisse également, il y a des traitements efficaces. Donc, dans son rôle de proche, d'accompagnant, voilà ce qu'il peut faire, conseiller, continuer à accompagner, puis conseiller de prendre contact avec des professionnels.
Parce qu'un des plus grands risques de la dépression, c'est justement le suicide.
Oui, c'est comme je l'ai dit en introduction, les troubles de l'humeur, la dépression sont des états très pourvoyeurs de conduite suicidaire.
Et quand quelqu'un, parce qu'on est toujours très mal à l'aise, quand quelqu'un dit « mais je vais tellement mal que j'ai envie de me suicider », il faut justement, enfin, je veux dire, continuer la conversation là-dessus. Et on a tendance tellement, on est mal à l'aise, à éluder, à dire mais non, enfin, tu vas pas te suicider, mais c'est, il faut en parler.
D'abord, il faut.
C'est pas ça qui va lui donner des idées d'en parler.
Ah non, surtout pas. C'est le contraire. Ce sont les idées suicidaires clandestines et non révélées qui sont les plus dangereuses. Non, je pense que quand on est destinataire d'un discours qui comprend des idées suicidaires, je pense qu'il faut au contraire encourager la personne à continuer à communiquer sur ses idées suicidaires. C'est très apaisant. Et garder le contact et que ce soit un sujet possible de conversation avec des proches, c'est décrit par les personnes qui ont des idées suicidaires comme extrêmement apaisant. Et d'ailleurs, dans la prise en charge des suicidants et de leurs proches, on encourage à ce qu'il y ait une communication possible sur ce sujet-là, parce que c'est très angoissant pour tout le monde. De toute façon, l'entourage sait bien quand il y a des idées suicidaires, donc
que l'autre va mal.
Que l'autre va mal, donc autant en parler, et c'est très apaisant pour tout le monde que ça soit un sujet de conversation possible. Et quand c'est clandestin et que c'est un peu tabou, nous, thérapeutes, encourageons, forçons un petit peu la discussion autour de ces idées suicidaires pour que les concernés, la personne qui a des idées suicidaires et ses proches, fassent l'expérience que ça a un rôle apaisant.
Je voudrais qu'on parle de la prise en charge des tentatives de suicide, prise en charge à l'hôpital, mais après médicale sur le plus long terme. Qu'est-ce qui est mis en place en France en termes de prise en charge? Parce qu'en fait, souvent les gens, quand il y a une tentative, ils arrivent aux urgences.
Alors, souvent, les patients qui ont fait une tentative de suicide sont pris en charge dans les suites des urgences. Donc, la première chose, c'est de diagnostiquer une morbidité accessible à un traitement, une décompensation dépressive, un état mixte, une crise, un état anxieux décompensé, une addiction. Donc, il y a déjà un repérage systématique de ces entités qui peuvent faire l'objet d'un traitement spécifique. Deuxièmement, dans le bilan qui est réalisé, on essaye aussi de faire une typologie de l'idée suicidaire. Est-ce que ça c'était un moment de quelques secondes? Est-ce que ces idées suicidaires se sont installées il y a 3 semaines, on sont allées crescendo et ont abouti à une tentative de suicide? Voilà, quel est le niveau de clandestinité? Est-ce que les choses ont été cachées? Quel est le dispositif d'accompagnement de la personne qui connaît ce moment de désespoir avec des idées suicidaires? Et du coup, en fonction de cet état des lieux qui est fait, des interventions sont possibles, médicales, psychothérapiques, et avec l'entourage, parce que l'entourage est souvent en grande souffrance dans les suites d'une tentative de suicide, se sent démuni, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc il y a beaucoup de pédagogie et d'éducation à faire autour de l'accompagnement d'un patient qui a des idées suicidaires. Les stratégies spécifiques, ça c'est très important, ça a fait l'objet de travaux, de recherches qui ont permis de montrer l'efficacité de ces dispositifs. Je pense en particulier aux études conduites par le professeur Guillaume Veva, Algos, ou la chaire d'excellence de la Fondation Fondamentale qui est actuellement occupée par Philippe Courté, sur le développement d'outils qui permettent de garder le contact. Et on sait que garder le contact après une tentative de suicide, c'est des choses assez simples, mais garder le contact, ça prévient la récidive suicidaire, et donc il y a toutes sortes de mesures.
Et garder le contact, quand vous dites ça, c'est entre le soignant, enfin le médecin et le
patient qui a fait une tentative de suicide. Alors il y a à partir de là, se sont développées plein de mesures. Ça peut être un coup de fil toutes les semaines. On vient prendre de vos nouvelles. Dites-nous un petit peu comment ça va. Ça peut être des cartes postales. Nous nous sommes vus il y a 3 semaines aux urgences après votre tentative de suicide. Nous pensons à vous. Donnez-nous des nouvelles. Voilà un numéro de téléphone. Si à nouveau vous aviez des idées suicidaires, n'oubliez pas de nous appeler, etc. Et puis il y a le développement d'outils connectés. C'est l'objet de la chaire du professeur Courté parce qu'avec ces nouvelles technologies, on a la possibilité de garder le contact ça c'est encore de la recherche, ces outils ne sont pas aujourd'hui disponibles, mais ça va l'être très bientôt. Donc c'est garder le contact, voilà, et puis à partir de ce principe, garder le contact, on peut imaginer plein de choses, et c'est aussi quelque chose qu'on peut prescrire aux proches.
Voilà, oui, qui peuvent aussi garder le contact, il n'y a pas que les soignants. Et quand c'est les soignants qui, comme ça, passent un coup de fil ou envoient une carte, effectivement, le patient répond?
Alors, dans l'expérience, ça a prouvé son efficacité, et donc c'est bien accueilli par les patients, et du coup, c'est une mesure aussi minime puisse-t-elle paraître, c'est une mesure qui contribue à diminuer l'isolement. Et l'isolement, c'est suicidogène.
Professeur Franck Bellivier, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler du suicide. On parlera des stratégies de prévention, des équipes de recherche. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Thank you.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du suicide à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide qui aura lieu ce dimanche. Et on en parle avec le professeur Franck Bellivier, qui est responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologique à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal à Paris. Et puis je vous rappelle le téléphone si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75. Professeur Franck Bellivier, juste avant les informations, on parlait de la prise en charge des personnes qui ont fait une tentative de suicide, point essentiel pour ne pas qu'elles récidivent. Vous avez évoqué la question de l'entourage, entourage des personnes qui ont fait une tentative de suicide, mais aussi des personnes qui se sont suicidées. Qu'est-ce qui est maintenant mis en place pour aider cet entourage? Parce que c'est un véritable séisme, un véritable traumatisme dans l'entourage.
Un tel événement, un décès par suicide, est extrêmement dévastateur dans les familles. Donc, il y a différentes mesures qui sont proposées à ces personnes endeuillées. Donc, il y a un rôle important de certaines associations qui sont des interlocuteurs pour certains d'entre eux qui acceptent de solliciter l'aide de ces associations. Et puis, nous, professionnels de santé, on sollicite systématiquement les proches pour un travail de suivi et de repérage, parce que dans ces proches il y en a qui vont plus mal que d'autres et donc il y a un premier aspect de qualification de leur détresse, c'est-à-dire de restaurer le fait que leur réaction émotionnelle est normale. Il y a souvent des mouvements de culpabilité. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça? Est-ce qu'on est responsable de quelque chose? Et donc ça, il faut retravailler ces aspects de culpabilité, parce qu'ils sont aussi très dévastateurs. Le repérage d'éventuelles décompensations chez ces personnes endeuillées, décompensations dépressives, mais aussi l'apparition d'idées de suicide chez certains d'entre eux. C'est pas tout à fait contagieux, mais ça peut être générateur de moments
à cause du traumatisme. Mais alors, est-ce qu'il faudrait pas proposer une consultation systématique pour l'entourage, consultation systématique? Est-ce qu'il y a pas des choses comme ça à mettre en place?
Mais c'est ce qu'on fait. On propose systématiquement. Après, les
gens prennent
n'acceptent pas. Parfois, le désarroi, la douleur est telle que ils sont plutôt dans des attitudes retranchées. L'entraide à l'intérieur du groupe familial peut jouer aussi son rôle. Aller voir un psychiatre pour ça, c'est pour certains mal, ou un psychologue, c'est parfois, ils trouvent que c'est une qualification inappropriée. Je suis dévasté par la mort de mon proche, mais pour autant je suis pas un gibier de psychiatre ou de psychologue. On essaye de moduler nos interventions au cas par cas, mais on propose cette aide systématiquement et je crois qu'il faut la recommander. Je pense que c'est l'entraide au sein du groupe familial, c'est une chose. La discussion avec des professionnels de santé, ça peut être très complémentaire.
Ça reste difficile, ça reste toujours difficile d'aller vous voir, hein. Non, mais c'est ce qui reste.
Oui,
dans ce que vous dites, finalement, oui, aller voir un psy ou un psychologue ou un psychiatre, ça reste quelque chose de difficile. La première fois, pas après, mais la première fois.
Oui.
Oui, vous avez conscience. Oui. Nous avons au téléphone le professeur Prosper Gandao, qui est chef du service de psychiatrie du CHU de Borgou à Parakou au Bénin. Professeur Gandao, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence du suicide au Bénin, où ça reste toujours très difficile parce qu'il n'y a pas d'enquête épidémiologique sur cette question?
Oui, nous avons effectivement des difficultés pour donner des chiffres sur le plan national, mais c'est seulement dans les hôpitaux que nous avons quelques chiffres. C'est un sujet encore très tabou.
Oui. Quel est justement le regard porté par la population, par la société sur le suicide?
Comme je l'ai dit, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Et quand cela arrive dans une famille, c'est une honte. si bien que c'est seulement quand la crise survient et que les sujets sont dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, qu'on arrive à aborder la question. Dès que, par bonheur, ils arrivent à sortir de l'hôpital, vous les convoquez, mais vous ne les voyez pas souvent parce que c'est un sujet vraiment qu'il ne faut pas aborder.
Une réaction sur cette question du tabou, professeur Franck Bélivier. En France, on a avancé, mais honnêtement, ça reste tabou.
Très tabou, historiquement, pour des questions religieuses, mais tabou aussi parce que y a cette culpabilité qui est générée par la détresse d'un proche, comme si on devait, nous, se sentir responsable d'un proche qui va pas bien, alors qu'il y a à l'œuvre là souvent des troubles dépressifs, en tout cas des troubles mentaux. Donc la personne qui rentre dans une crise suicidaire est souvent aux prises avec un état morbide et les proches sont démunis. Donc le côté clandestin, tabou, est aussi lié au fait que du fait de cette culpabilité générée par les idées suicidaires ou la conduite suicidaire d'un proche. Enfin, il me semble que c'est les principaux déterminants de ce...
Et une journée mondiale comme celle-là, c'est important, ça permet d'en parler.
Oui, c'est très important d'en parler. On sait d'ailleurs que si des progrès ont été réalisés dans notre communication avec les patients et avec leurs proches, c'est grâce à ces actions de communication grand public. C'est très important.
Professeur Gandao, qu'est-ce que vous arrivez à faire en termes de prise en charge, entre autres sur les tentatives de suicide dont on parlait tout à l'heure?
En dehors donc du pronostic vital pour lequel on arrive rapidement à trouver une solution dans les services d'urgence, effectivement, les suicides sont pour la plupart liés à des problèmes existentiels, à des problèmes sociaux, surtout les conflits familiaux. Alors, dans la prise en charge, ça nous permet donc de voir au niveau de la famille comment arranger la communication au sein de la famille. Par la suite, si certains sont malades, ils ont des troubles dépressifs, on met le traitement qu'il faut pour pouvoir traiter la dépression, les troubles de l'humeur, et on continue donc par un travail avec la famille pour que le sujet s'en sorte.
Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous l'avez dit, la première difficulté, c'est cette question du tabou, le fait de ne pas en parler, mais quelles sont les autres difficultés?
Les autres difficultés que nous rencontrons, c'est que le suicide entraîne vraiment un sentiment de culpabilité généralisée au sein de la famille. Alors, quand les premiers dans la famille sont disposés à venir, petit à petit, ils sont découragés parce qu'on trouve chez le malade ou bien chez les thérapeutes une envie de vouloir trop psychiatriser donc la prise en charge. Or, pour eux, tout ce qui est psy, c'est de l'ordre donc du fou, furieux, qui casse. Donc là, on n'arrive pas à les garder pour longtemps. Or, l'écoute et améliorer la communication au sein de la famille est très important pour la prise en charge. Donc les difficultés, c'est d'abord la famille qui se resserre, qui se referme et qui nous arrache le malade. Il y a des cas où, malheureusement, après ce comportement, les tentatives ultérieures aboutissent à la fin, donc le sujet finit par mourir.
Professeur Franck Bélivier, comment faire comprendre qu'on n'est pas fou quand on va voir un psy? Ou alors qu'on est tous fous, c'est peut-être.
Non, mais je pense que c'est... Cette question peut bon, c'est un état de fait, donc il faut qu'on fasse avec ça. Pour lutter contre ces préjugés, je pense que le modèle médical que l'on propose pour les troubles psychiques est une réponse qui permet d'avancer. C'est-à-dire que tant que la folie est du registre c'est une forme d'ésotérisme, bon, mais je pense qu'il faut marteler que les troubles mentaux sont des maladies à part entière et doivent accéder aux soins et qu'on peut parler de ces choses-là et qu'il y a rien de ni de contagieux ni de il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on sait. Il semblerait que ceux qui se soignent vont mieux que ceux qui ne se soignent pas.
C'est en tout cas, oui, a priori, ce que vous constatez. Professeur Gandao, une dernière question. Qu'est-ce qui est fait en termes de prévention du suicide au Bénin?
Là, c'est la grande déception.
Oui.
Ce que nous souhaitons, c'est que vraiment, le taux n'est pas apprécié à sa juste valeur. Parce qu'avec les existentiels, la morosité économique, là, dans la libéralisation de la famille, là, c'est que vraiment le taux augmente. Mais personne n'en parle. C'est que Il faut premièrement que nous, les professionnels, et à travers votre émission, qu'on fasse en sorte que vraiment le problème devienne un problème d'actualité, un problème de santé publique, et que cela puisse nous aider à former des agents de santé pour que ceux-là puissent identifier tous les sujets à risque et commencer par agir, parce que là, ça va amener les décideurs à se pencher un peu sur la question, sinon pour le moment, rien n'est fait.
Merci beaucoup, hein, professeur Prosper Gandao. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie au CHU de Borgou à Parakou, au Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du suicide à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide qui aura lieu ce dimanche. On en parle avec le professeur Franck Bellivy. Je voudrais justement qu'on parle prévention en France. Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les stratégies? Vous avez commencé à les évoquer en début d'émission. Quelles sont ces stratégies de prévention mises en place en France?
Alors d'abord, il y a des mesures de santé publique, c'est pas spécifique à la France, mais qui ont montré leur efficacité. Premier registre de mesures, ce sont de limiter l'accès aux moyens de suicide. On voit bien que les suicides par arme à feu, par exemple, sont beaucoup beaucoup plus rares quand il y a une législation qui encadre l'accès aux armes à feu.
Ce qui voudrait dire qu'aux États-Unis, où il y a beaucoup plus d'armes à feu disponibles, il y a plus de suicides.
Par arme à feu.
Par arme à feu, oui. Donc limiter le moyen, c'est quand même
voilà.
un moyen important.
Tout ce qui est barrières dans les immeubles de grande hauteur, dans les barrières également dans les stations de métro et dans les stations de train, l'accès aux produits toxiques, aux médicaments qui peuvent être dangereux. Donc il y a des mesures de santé publique qui peuvent œuvrer dans le bon sens. La prévention, c'est aussi l'information, on vient de le dire. Il faut communiquer sur ces morbidités-là et avoir un meilleur accès aux idéateurs, les personnes qui ont des idées suicidaires. Mesdames et messieurs, si vous avez des idées suicidaires, consultez, vous avez un numéro spécial, donc toutes ces mesures...
Entre guillemets, c'est pas normal d'avoir des idées suicidaires. Si on en a, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut consulter, c'est ça que vous dites.
C'est très commun d'avoir des idées suicidaires. Ce qui est dangereux, c'est d'avoir des idées suicidaires dont on perd le contrôle. Donc je pense qu'il faut démocratiser un peu cette idée que c'est assez commun, mais que une vigilance doit s'exercer. Communiquer sur ces idées suicidaires, c'est important. Et surtout, veiller à ce que y ait une communication soit à des proches, soit à des professionnels. Lorsqu'on fait l'expérience que l'on perd le contrôle ou qu'on pourrait perdre le contrôle de ces idées suicidaires, c'est extrêmement important. Donc, il faut diffuser très largement cette idée. En termes de prise en charge, et on l'a vu, la prise en charge repose essentiellement sur la prévention de la survenue d'une tentative de suicide chez des personnes repérées comme à risque. Ça peut être la prévention d'une récidive suicidaire, ça peut être la prévention d'une conduite suicidaire chez quelqu'un qui a des idées suicidaires, et puis il y a des populations à risque que sont les personnes qui ont un antécédent familial de conduite suicidaire, les personnes qui ont un trouble mental suicidogène, trouble de l'humeur en particulier, et également c'est le repérage de ces éléments de contexte, soit actuels, facteurs de stress, soit dans le passé, ces expériences traumatiques qui ont pu impacter le développement, et on sait que...
Dont la maltraitance des enfants.
La maltraitance, au sens large, parce qu'il y a différents types de maltraitance, mais tous ces facteurs de stress au cours du développement sont des facteurs de risque importants à l'âge adulte de connaître des idées suicidaires.
Quels sont les signes avant-coureurs, qui doivent alerter et l'entourage et la personne concernée? Vous en avez cité un, le premier, c'est d'avoir des idées suicidaires. Et quels sont les autres signes avant-coureurs?
C'est le principal. Après, il y a ce qui est autour de l'idée suicidaire qui fait que l'idée suicidaire est plus ou moins dangereuse. Et en particulier la clandestinité.
Le fait justement de ne pas en parler. Voilà. On a au téléphone le docteur Mathieu Lussmann, qui est médecin généraliste à Montreuil, en région parisienne, chercheur en sociologie de la santé, président du comité éthique et scientifique de l'Union nationale de prévention du suicide. Docteur Mathieu Lussmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi président de la Fédération européenne des associations luttant contre l'isolement et pour la prévention du suicide, qui a organisé justement une rencontre au Parlement européen à Bruxelles, si je ne me trompe, hier. Quels ont été les objectifs de ces assises, justement? Quels sont les points importants que vous avez abordés?
Ben, l'idée, c'était de réfléchir à la place de la prévention du suicide dans l'agenda de l'Union européenne. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de ne pas uniquement réfléchir en termes franco-français, mais de sortir de nos frontières et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc l'idée était de faire un état des lieux, des pratiques, des différents collègues, des différentes associations, et aussi de voir un petit peu les questions que nous nous posons. Parce que si en matière de prévention du suicide, on parle de l'isolement des personnes comme facteur de risque, il y a aussi l'isolement des intervenants. Et c'est aussi important de voir de quelles sont nos difficultés à nous et qu'on puisse les partager avec les autres acteurs pour faire une meilleure prévention.
Et alors, dans les bonnes idées qu'il peut y avoir ailleurs dans d'autres pays, quels sont les exemples que vous auriez à nous donner?
Alors, on est au tout début. Je ne peux pas encore vous répondre parce que nos assises hier étaient un grand début.
Oui, c'est ça.
Un début. Alors, par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu les projets européens. Donc, ça commence à se mettre. Et en particulier, il y a un projet européen qui est justement dans l'idée de collecter les bonnes pratiques dans 14 à 15 pays. Donc, c'est vraiment, on amorce. Hein. Ça a mis du temps à ce que la prévention du suicide soit sur l'agenda. Donc ça arrive. Pour l'instant, on est au début. Donc il y a toutes les questions qui se passent en France. Ce qui est important pour moi, c'est le réappel, par exemple.
C'est-à-dire
qui passe aux urgences. Mm-hmm. C'est-à-dire
que ce dont on a parlé tout à l'heure, le lien.
Oui, le lien. Quand quelqu'un passe aux urgences, il s'est passé quelque chose, c'est un événement. Et ce que se développe aussi bien en Belgique, aussi bien en France, dans d'autres pays, c'est l'idée que cette personne soit vue par un relais associatif, qu'elle ne reste pas seule après.
Quel est le rôle du médecin généraliste sur cette question de prévention du suicide? Vous avez un rôle central.
On a un rôle central et compliqué. Parce que souvent, quand on fait prévention du suicide, on a envie d'avoir des protocoles, des évaluations. On a l'échec qui s'appelle le RUD à appliquer. Et tout ça, ça marche pas tant que ça, parce que le suicide est toujours quelque chose, un événement unique, un événement singulier, dont les gens nous parlent peu. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai une jeune fille qui est venue, elle voulait uniquement que je lui remplisse son cahier de vaccination parce qu'elle voulait devenir infirmière. Et c'est moi qui, en l'interrogeant dans ses antécédents, dans son mode de vie, j'ai compris qu'elle avait un premier rapport sexuel extrêmement complexe, dont elle était énormément en souffrance, dont elle ne m'a pas parlé. Donc il y a une attention de tous les instants à porter sur des petits signes dont les gens n'osent pas nous parler. Ce que j'appelle un peu souvent à mes étudiants la question de la poignée de porte. Ce que les gens n'osent pas nous parler, et nous, moi, on doit être attentif à ça. Et à ce moment-là, donner du temps, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, quitte à éclater un peu nos consultations dans ces cas-là. Et ben moi, je reste une demi-heure, une heure avec ces patients-là.
Et ça, est-ce à dire qu'il faut assez fréquemment poser cette question? Est-ce que vous avez des idées suicidaires?
Oui, moi je la pose très fréquemment. Parce qu'on ne peut pas savoir, puisque nos échelles sont pas claires, nos pronostics sont pas si simples que ça, on a beau avoir des facteurs de risque, la meilleure façon, c'est de poser la question. D'abord, on soulage la personne. On a un petit peu peur de poser la question parce que on a l'impression que si on pose la question, on peut provoquer. Ça, c'est du pur fantasme. Par contre, poser la question soulage et puis on engage un dialogue.
Professeur Franck Bellivier, je vous vois faire oui de la tête. C'est aussi une question que vous posez.
Non, il faut marteler que poser la question ne déclenche pas d'idées suicidaires. Au contraire, et il faut systématiser cette question le plus possible. Il y a une enquête récente qui a montré que seulement 30% des consultations de psychiatres aborder cette question-là. Alors évidemment, on n'est peut-être pas obligé de la poser à chaque fois qu'on voit un patient qu'on suit depuis 2 ans, 3 ans, etc. Mais je pense que...
On devrait atteindre du 100% quand même sur...
Il faut absolument poser cette question. Les patients qui connaissent ces idées suicidaires décrivent très bien qu'ils ont des résurgences d'idées suicidaires volontiers au moment d'une décompensation dépressive, au moment d'un épisode mixte, etc., etc. Mais ils décrivent aussi très bien qu'ils ont un cours évolutif de leurs idées suicidaires qui suit pas forcément le cours évolutif de leurs troubles de l'humeur, par exemple. Donc, il faut poser cette question et on va découvrir que on a des patients idéateurs et du coup, ça va être un élément du contrat de soins que la surveillance du cours évolutif de ces idées suicidaires.
Et du coup, vous le faites.
Oui, le plus possible. Est-ce que je suis systématique à 100%? Je ne sais, probablement pas, mais en particulier avec les patients que je connais depuis très longtemps et où cette question a été abordée et fait partie de notre contrat. Donc, il est sous-entendu que s'ils en ont, ils vont m'en parler. Mais je pense qu'il y a là un effort de systématisme à faire et que je me prescris à moi-même, d'ailleurs.
Tout à fait. Docteur Mathieu Lutzmann, est-ce qu'il n'y a pas tout un travail de formation à faire auprès des médecins généralistes sur ces questions-là?
Alors, la formation, certes, est intéressante, mais c'est un peu, entre guillemets, la tarte à la crème. Mmh. Dès que j'accompagne des thèses, et pratiquement toutes les thèses des étudiants en médecine générale, des internes, continuent, il faut former le médecin généraliste. Mmh. C'est pas uniquement une affaire de formation, même si c'est la base, c'est une affaire d'appropriation, de comprendre, de donner sens à ce que nous, généralistes, on fait. Et il faut aider le médecin généraliste à apprendre à poser la question, pour que ça puisse donner sens dans sa pratique. Mmh. Donc c'est un accompagnement. Il faut qu'on accompagne nos patients, mais aussi il faut qu'on accompagne nos soignants, parce que eux aussi sont fragiles. Et c'est pas si simple que ça, confronter un patient qui a des idées suicidaires, de poser la question.
Oui, et après, s'il me dit oui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis?
C'est toute la question. C'est la question de l'orientation. Donc à côté de poser la question, il faut avoir un réseau. Il faut savoir qui appeler, comment appeler, savoir qu'on doit, si la personne nous dit oui, ben comment l'aider à faire accepter qu'elle aille aux urgences, c'est un travail qui est pas si simple que ça. Accepter aussi qu'elle aille voir un psychiatre, c'est une partie de mon boulot qui est pas si simple que ça. La revoir dans 2 jours, et puis se sentir, nous, compétents à faire ce travail-là.
Et donc, légitime.
C'est légitime. Donc il y a tout le travail. La formation, c'est le savoir extérieur. À côté de ça, j'aime bien le mot compréhension, qui est de dire, ben, je m'approprie le savoir extérieur, après j'agis, et j'aime bien aussi le mot réflexivité après, je réfléchis sur ma pratique, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai eu du mal à faire les choses. Donc c'est pas uniquement un problème de formation en soi, ce n'est qu'un élément de la démarche.
Mathieu Lutzmann, juste une dernière question, finalement, qu'est-ce que vous demandez pour améliorer la prévention du suicide, de façon très concrète?
D'avoir peut-être un temps pour nous soignants pour réfléchir aux questions qu'on n'a pas le temps de se poser. Toutes ces difficultés-là, ben, qu'on puisse se réunir pour savoir, ben, ne serait-ce que des enjeux de rémunération, qu'est-ce qui se passe quand on rémunère un médecin qui reste une heure avec un patient. Donc c'est ce temps d'accompagner les patients, d'accompagner les soignants pour réfléchir à toutes ces questions qu'on n'a pas le temps de se poser. Comment réfléchir sur nos pratiques? Ça, c'est extrêmement important.
Merci beaucoup, Mathieu Lutzmann. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Montreuil. Professeur Franck Bellivier, où en sont les recherches sur ces questions de prévention du suicide et de prise en charge des tentatives?
Alors, il y a deux grands groupes de recherches. Il y a les recherches qui visent à démontrer l'efficacité d'intervention. Ça peut être des modules de prise en charge psychothérapique spécifiques, visant spécifiquement à réduire ou à contrôler les idées suicidaires. Alors, il y en a de différents types. Je pense par exemple aux thérapies des raisons de vivre. Bon, c'est un exemple. Des types de psychoéducation, de thérapie haut niveau comportementale qui se développent et qui font l'objet d'une démarche scientifique d'évaluation pour documenter leur efficacité.
Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas?
Qu'est-ce qui marche pas? On peut mettre dans ce groupe de recherche également les stratégies de maintien de liens, le téléphone, les cartes postales, les applications connectées, etc., etc. Donc ça, c'est
un groupe de recherche.
Un groupe de recherche extrêmement dynamique et en tout cas en France et dans le monde, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui sont engagées là-dedans et c'est une source d'espoir important de voir cet effort de recherche se développer. Il y a un autre groupe de recherche qui se développe, qui est historiquement assez ancien, avec des équipes en France qui sont très engagées de longue date. C'est la compréhension de la vulnérabilité aux conduites suicidaires. Pourquoi on n'est pas égaux face à ce risque de présenter des idées, des conduites et des décès par suicide? Donc, avec une architecture de facteurs de risque aussi complexe, on reste quand même très attaché à essayer de mieux comprendre pourquoi une personne exposée à une maltraitance dans l'enfance, exposée à une addiction, exposée à une décompensation dépressive, parce que tous les dépressifs ne font pas des tentatives de suicide. Pourquoi certaines personnes vont dans ces situations-là, exposés à ces facteurs de risque, développer des idées et des conduites suicidaires et pas d'autres. Et là, il y a donc des recherches très fondamentales, neurobiologiques, génétiques, qui essayent de comprendre comment se manifeste cette vulnérabilité aux conduites suicidaires. Alors, on espère de ces recherches qui sont aujourd'hui encore très fondamentales identifier des indicateurs, des biomarqueurs, même peut-être, qui va permettre de compléter l'évaluation qui est faite pour mieux prédire le risque suicidaire.
Savoir un peu vraiment qui est à risque, et du coup c'est cela qu'il faut particulièrement prendre cibler. En charge et suivre et cibler. Je répare d'une question de Hugo au Cameroun qui nous a laissé un message sur Facebook, qui dit « J'ai une cousine qui a voulu suicider en buvant de l'eau de Javel et des comprimés. Je me demande si une personne normale peut avoir ce genre d'idée. »
Alors on va revenir sur des choses qu'on a déjà dites. Donc les idées suicidaires, c'est très commun. La normalité dans l'espèce humaine, c'est assez difficile à définir. Donc oui, des personnes non malades, qu'on va qualifier de normales, peuvent connaître des idées suicidaires. Mais surtout, il y a des entités, il y a des contextes morbides, des maladies qui peuvent être associées à ces idées suicidaires, je le répète. Et à ce moment-là, les idées suicidaires sont fugaces. Donc, est-ce qu'une personne cesse d'être normale quand elle est malade? Je ne pense pas.
Voilà. Mais donc, on voit bien qu'il y a encore plein de représentations sur cette question du suicide et qu'il y a de l'information à faire. Merci beaucoup, professeur Franck Bellivier. Lundi, on parlera des mariages forcés et des conséquences sur la santé psychique mais aussi physique. Un téléphone si vous avez envie de participer, 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, Ophélie Lassène et Laurence Nau. Bon week-end, à lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.